Alors, moi, je suis Michel Dumas-Paradis.
Mon nom, c'est Jean-Paul.
Oui, ben, je m'appelle François, je suis dans la mi-trentaine.
Oui, mon nom, c'est Brian Pierce, je suis au...
Alors, mon nom, c'est Alexis Michel, je suis le cadet.
Étienne Ferron-Forget, coordonnateur Valoriste Québec.
Mon nom, c'est Linda Toussaint.
Donc, je suis Ruba Gazal, députée de Mercier pour Québec solidaire.
Sabrina Charon, chef d'équipe programme opérationnel chez Recyc Québec.
Mon nom, c'est Marika Vasquez-Tagliero.
Bonjour, je me présente, mon nom est François Simard.
Je m'appelle Lise Lachance, je vis à Saint-Roch depuis 33 ans.
Je m'appelle Véronique Demers et je suis journaliste pigiste à Québec. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers des valoristes.
Si les valoristes semblent gérer plutôt bien l'économie alternative développée par la cueillette de contenants consignés, une vaste économie est en jeu chez les producteurs de ces contenants. J'ai interviewé deux représentants de l'industrie brassicole pour en savoir plus. Brian Pierce, membre de l'Association des microbrasseries du Québec, et Patrice Léger-Bourgoin, directeur général de l'Association des brasseurs du Québec. L'Association des brasseurs du Québec, l'ABQ, représente un poids commercial important dans l'industrie brassicole. En effet, Molson Coors, Sleeman et Labatt génèrent 90 % des bières sur le marché québécois. Ça laisse donc une toute petite place pour les microbrasseurs. Ils se sont toutefois regroupés sous l'Association des microbrasseries du Québec, l'AMBQ, comptant plus de 120 membres. Brian Pierce est copropriétaire et directeur de l'empaquetage à Noctem Artisan Brasseur. Le pub, membre de l'AMBQ, est dans le quartier Saint-Roch et l'usine de production dans le quartier Saint-Sauveur, à Québec. Vous brassez votre bière depuis les tout débuts?
Oui. Nous autres, on a commencé à brasser sur place ici en 2015, quand on a ouvert le pub, en décembre 2015. Mais sinon, là, à l'usine, où est-ce qu'on produit justement le qu'on a justement la canette, c'est depuis décembre 2018.
Noctem Artisan Brasseur produit des canettes destinées aux détaillants et des barils pour des bars à bière à Québec, à Montréal et en région. D'autres lieux qui ont une ligne de bière, comme des auberges et des spas, commandent aussi des barils de bière. En 2020, Noctem Artisan Brasseur prévoit produire 400 000 litres. C'est nettement plus que les années passées, où l'entreprise a produit entre 250 000 et 300 000 litres. Au départ, la production s'élevait à 10 000 canettes par semaine, alors qu'aujourd'hui, Noctem Artisan Brasseur produit entre 16 000 et 18 000 canettes par semaine. Je me demande combien de valoristes mettent la main sur ces canettes. La microbrasserie se distingue de la brasserie dans sa quantité de bière ou de produits de bière. Fusionnée ou non, une microbrasserie ne doit pas excéder 500 000 hectolitres dans ses ventes mondiales annuelles. Si la microbrasserie est associée ou affiliée à une autre entreprise brassicole, les ventes mondiales ne peuvent dépasser 1 million d'hectolitres. Et la pandémie dans tout ça? Noctem Artisan Brasseur n'a pas manqué de canettes d'aluminium, puisqu'il a fait des provisions.
Mais durant la pandémie, ce qui s'est passé, c'est que toute notre production de barils de bière a chuté à zéro parce que les bars ont fermé. Fait qu'on a juste orienté toute la production vers la canette.
Il n'y a pas que l'aspect économique qui a été touché pour les grands brasseurs, mais aussi l'aspect social. L'Association des brasseurs du Québec, l'ABQ, n'a pu soutenir en 2020, comme à l'habitude, des associations sportives et des organismes communautaires. Le directeur général de l'ABQ, Patrice Léger-Bourgoin, souligne que sa collaboration habituelle avec Consigne Éco, des épiciers et des associations pour des collectes de fonds a été complètement balayée par la pandémie. Normalement, l'ABQ encourage les citoyens à ramener leurs contenants consignés lors d'une journée bien précise dans le cadre d'une collecte de fonds pour une association. Le détaillant fournit alors de l'espace et les bénévoles de l'association recueillent les contenants consignés donnés par les citoyens. Cette activité permet normalement d'amasser des milliers de dollars en valeur de consignes non remboursées pour financer des activités communautaires au Québec. Pour les valoristes, c'est plus facile de récupérer les canettes que les bouteilles de verre. La matière est plus légère et ne risque pas de se casser. Noctem Artisan Brasseur s'est tourné dès le début vers la canette pour des considérations techniques. Brian Pierce explique.
Quand on a choisi la canette pour la première fois, c'était dans le but d'offrir un produit, justement, la IPA, qui doit être fraîche. Puis la canette le permet justement de faire un encanage qui est souvent contre-pression, qui est sans refermentation en bouteille pour avoir le gaz. La refermentation en bouteille pour une IPA, c'est pas très bon pour la qualité. Ça change un peu justement les goûts. Fait que la bière va être moins fraîche, va être moins accentuée sur les houblons parce qu'il y a une refermentation qui se fait dans la bouteille dans certains cas. On a essayé d'optimiser pour un embouteillage à contre-pression. Ça n'a pas été optimal. Mais au final, la canette, on s'est rendu compte que c'est un peu le meilleur contenant pour garder de l'IPA fraîche le plus longtemps possible. C'est sûr que la bouteille de verre brun semble avoir un moins gros impact écologique, notamment à cause de sa réutilisation. Mais on n'a jamais été non plus certain que, dans notre cas, c'était possible de réutiliser le contenant 10 fois. Quand on regarde justement les grosses embouteilleuses, ils ont une machine qui va scanner les bouteilles, s'assurer que justement les bouteilles réutilisées ne sont pas fragmentées, ils n'ont pas été effritées justement là, dans le transport, puis ils vont retirer toutes les bouteilles qui ne sont pas bonnes. Nous autres, une microbrasserie, on n'a pas nécessairement l'argent pour se permettre d'acheter cette machine-là. Fait qu'on se retrouve souvent justement à privilégier le contenant neuf pour s'assurer qu'on n'ait pas des bouteilles qui explosent dans la machine d'embouteillage. Parce qu'à seconde que le verre il est un petit peu fragmenté, dans la bouteille, ça va exploser dans la machine. Puis là, on va se retrouver à avoir des débris. Puis là, on se retrouve à avoir un contrôle qualité qui est plus difficile à garder. On retire beaucoup de bouteilles de l'embouteillage parce qu'il y a des risques d'avoir du verre cassé dans d'autres bouteilles. Fait qu'à chaque fois qu'il y a une bouteille qui explose dans une machine, c'est une grosse difficulté là, sur la production.
Si les bouteilles ne peuvent retourner dans la chaîne de montage parce qu'elles sont fragmentées ou en fin de vie, elles deviennent de la matière première pour devenir de nouvelles bouteilles. Une fonderie montréalaise veille notamment à cette transformation. Patrice Léger-Bourgoin souligne que 100% du verre transparent au Québec se transforme dans de nouvelles bouteilles de bière. Quant aux bouteilles de couleur verte, elles sont transformées en laine minérale pour les maisons. Bien que l'accent soit mis sur les contenants en remplissage multiple pour l'aspect environnemental, il faut toutefois minimiser l'utilisation de la matière première pour en fabriquer de nouveaux. M. Léger-Bourgoin rappelle qu'en commission parlementaire à l'automne 2019, on déplorait les nombreux contenants de verre envoyés vers les sites d'enfouissement. Jusqu'à tout récemment, l'industrie brassicole devait respecter un quota de 37,5% sur les contenants à remplissage multiple pour éviter la prolifération des contenants à remplissage unique. En d'autres mots, un brasseur devait avoir plus du tiers de sa production en bouteille. Mais avec le temps, le volume de canettes n'a cessé d'augmenter. En juillet 2019, le quota sur les bouteilles a été levé. Ça pouvait donc laisser choix à l'industrie brassicole d'augmenter son volume de canettes. En février 2020, les contenants en remplissage multiple ont été produits à partir de 60 % de matières recyclées. Selon Patrice Léger-Bourgoin, directeur général de l'Association des brasseurs du Québec, ces nouvelles bouteilles représentent quelque chose d'exceptionnel. C'est la preuve pour lui que les modèles d'économie circulaire au Québec peuvent fonctionner. Monsieur Léger-Bourgoin confirme en entrevue qu'il trouverait déplorable si Recycle Québec impliquait peu l'industrie brassicole dans la réflexion sur l'économie circulaire au Québec. Il y a plusieurs avenues intéressantes pour la valorisation du verre. Mais qu'en est-il de l'aluminium? Ce métal peut être recyclé pratiquement à l'infini. Selon le Centre d'expertise sur l'aluminium, près de 75 % de ce matériau produit dans le monde depuis la révolution industrielle, c'est-à-dire depuis les années 1890, est encore utilisé. Bref, il est plus payant de recycler l'aluminium que de le jeter.
La canette est plus facile à transporter, c'est moins difficile à récupérer dans notre cas, parce que justement, là, on peut s'assurer que la consigne se ramasse, là, où est-ce qu'elle doit se ramasser. Versus des fois, on a des bouteilles, on a peur un peu que ça se ramasse cassé, à ne pas se retrouver réutilisé. Parce que la canette, elle peut être écrasée, puis après ça, elle peut être refondue là, pour redonner une nouvelle canette.
La production des canettes d'aluminium en dehors du Québec serait l'un des impacts négatifs les plus notables sur l'environnement. Les brasseurs s'approvisionnent en Ontario ou aux États-Unis, faute de producteurs québécois.
Le gros problème, c'est la production des canettes qui n'a pas été encore ramenée au Canada. Toute la production des canettes en ce moment se fait aux États-Unis. Fait que d'autres, quand on achète justement des canettes, on doit acheter des grosses quantités pour s'assurer que le transport se fait d'une seule fois. Fait qu'on va racheter justement 24, on va acheter un camion plein de canettes. D'autres, on va stocker ça justement pendant plusieurs mois. Mais il n'y a pas encore d'usine qui fabrique la canette. Au Canada, au Québec. C'est pour ça que quand les accords de libre-échange sont un peu hasardeux, nous autres, ça nous met un peu sur le qui-vive à savoir si on va avoir des canettes qui vont se rendre à temps pour notre production.
Le directeur de l'Association des brasseurs du Québec souligne que les canettes produites sont à proximité des frontières canadiennes, donc il y a peu de distance à parcourir, ce qui réduit l'empreinte environnementale. M. Léger-Bourgoin ajoute que les canettes retournent dans le réseau de la consigne publique pour redevenir de nouvelles canettes ou encore des pièces d'avion, de vélo, etc.
Quand on produit justement un contenant, on rentre dans les ententes avec Recyc Québec, on joue une partie dans cette espèce d'organigramme-là, on est justement un producteur, on vend, puis on s'assure aussi de renflouer les coffres, puis s'assurer que le système ça marche bien, puis que l'argent se rend dans la consigne, puis revient à bonne place. D'autres, on est justement une partie de cette équation-là. Je sais, comme d'expérience personnelle, avoir travaillé dans les épiceries, quand on arrive dans le backstore et on regarde justement des bouteilles, c'est des châteaux là, de caisses parce que chacune des brasseries a décidé de faire une bouteille différente. T'as des styles Molson, la batte, la bouteille brune. Après ça, t'as des bouteilles transparentes, des bouteilles vertes, des bouteilles qui sont moulées avec le logo de la brasserie. Fait que c'est sûr que nous autres, quand on rentre, là, c'est impressionnant justement. La bouteille Nibrou, la bouteille 500 ml. Après ça, là, on peut penser à Trou de Diable qui ont leurs propres bouteilles aussi qui sont comme sérigraphiées, qui sont moulées justement avec le logo Trou de Diable. Fait que c'est toutes ces sortes de contenants-là. C'est assez impressionnant à voir là, quand on rentre dans un IGA, là, dans le backstore, versus la canette. La canette est toujours la même. Puis une canette 355 ml, une canette 473 ou même une grosse canette justement là, de 900 ml, bien au final, ils sont écrasés. Puis ça devient juste un bloc d'aluminium à la fin. Fait que je pense que la canette, au niveau de la gestion d'entrepôt, ça doit être beaucoup plus facile à gérer. Une fois qu'elle est écrasée, elle prend pratiquement pas de place. Versus la bouteille ne peut pas être éclatée, ne peut pas être brisée. Il faut qu'elle reste entière pour être lavée puis réutilisée.
Au-delà des considérations techniques et écologiques des contenants consignés, contenants que les valoristes récupèrent, que pense Brian Pierce du point de dépôt dans le quartier Saint-Roch, sous les bretelles de l'autoroute Dufresne-Montmorency?
Ça doit être vraiment intéressant parce que justement, on peut avoir une meilleure optimisation de ramener la bouteille au bon endroit. C'est quelqu'un qui est vraiment qui s'occupe de ça, puis c'est sa mission de s'assurer que le contenant est utilisé. Je pense que c'est juste bénéfique parce que tous les détaillants, est-ce qu'ils portent la même attention que les valoristes à trier les produits puis s'assurer que les produits reviennent en bon état vers les compagnies qui vont laver les bouteilles? Je pense que c'est mieux que ce soit une expertise qui fasse ça versus un peu tout le monde qui le fasse de la façon qui semble bien pour lui puis qui optimise aussi son entrepôt parce que chaque détaillant n'a pas nécessairement tout l'espace pour garder ces bouteilles-là. Ça doit être quand même compliqué. Là. Quand on regarde des fois des dépanneurs, on rentre dans un dépanneur, c'est tout petit, il fait un retour de bouteille parce qu'il est obligé, à ce moment qu'on vend, on est obligé de ramener aussi le produit. Ça doit pas être facile. Fait que je pense que c'est bon qu'il y ait une expertise. Puis dans cette équation-là de recyclage, je pense qu'il doit avoir un œil acheté dans chaque côté. Là. S'assurer que les gens qui ramassent puis les gens qui produisent, bien, il y a une communication aussi qui est faite entre les deux, qu'on puisse travailler ensemble. Là.
De son côté, le directeur général de l'Association des brasseurs du Québec, Patrice Léger-Bourgoin, croit que le système de consigne communautaire peut prendre plusieurs aspects. Toutefois, M. Léger-Bourgoin estime que le retour des contenants consignés de bière chez les détaillants doit être privilégié comme type de consigne. L'ABQ a aidé pendant les deux premières années d'existence des valoristes de Montréal à mettre sur pied leur système de gouvernance et leur logistique. L'association a aussi offert la formation auprès des intervenants sur la manutention des contenants, en plus d'offrir des boîtes et des camions. Aujourd'hui, l'ABQ répond à des besoins ponctuels exprimés par la coop. Le directeur général de l'ABQ rappelle que le défi est de laisser la plus faible empreinte environnementale possible, peu importe le type de contenant. Il appartient au consommateur de retourner le contenant consigné chez le détaillant. Le consommateur subit une pénalité lorsqu'il place son contenant dans le bac à recyclage, puisqu'il renonce à une consigne déjà payée. Selon M. Léger-Bourgoin, la collecte sélective au Québec démontre des failles. L'élargissement de la consigne vise justement à pallier cette réalité. Dans le prochain épisode, je vais aborder en détail l'élargissement de la loi sur la consigne, en plus de citer en exemple la Ville de Québec pour la gestion des matières résiduelles. Je vais aussi parler avec un valoriste très sensibilisé à l'environnement.
Réalisation Véronique Demers. Coordination à la production, montage, mixage et bruitage, Marlène Bordelot. Coordination à la programmation, Pascal Evans. Les Valoristes est une production de CKIA FM en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.